Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Praud.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une donc, ce 7e jour de guerre en Ukraine et cette offensive russe qui s'intensifie, notamment sur Kharkiv. On fera un point complet dans un instant. Emmanuel Macron, lui, doit prendre la parole ce soir à 20h. Dans ce journal également, la présidentielle, Christiane Taubira qui jette l'éponge. Et puis le PSG qui fait un pont d'or à Mbappé pour qu'il reste à Paris.
Focus sur ces Français toujours en Ukraine, ce sera l'un de nos sujets à 12h40 et puis à 12h50, une histoire absolument incroyable. 14 légionnaires français d'origine ukrainienne ont été arrêtés la nuit dernière à Paris alors qu'ils s'apprêtaient visiblement à aller combattre en Ukraine. Guillaume Chiez a mené l'enquête.
Notre question du jour sur RTL.fr, êtes-vous personnellement prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens? Vous dites oui à 25%, non à 56%. La météo, c'est avec vous Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Amandine.
C'est encore bien nuageux.
Oui, surtout sur l'ouest du pays avec des pluies continues cet après-midi des Pyrénées centrales en allant vers l'Auvergne. Plus au nord, les averses sont plus éparses. Et dans l'est du pays, on peut espérer quelques trouées malgré un ciel chargé et un temps plus sec. Les températures, elles sont du coup en baisse dans le sud-ouest hein, sous les pluies, quasi stationnaires ailleurs, de 9 à 14 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 16 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi,
édition spéciale.
Et d'abord donc, direction Kharkiv, au nord de l'Ukraine, Kharkiv sous les bombes. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Très clairement, l'offensive se poursuit, s'intensifie hein, même dans cette ville qui est, on le rappelle, la deuxième ville du pays.
Oui, des troupes aéroportées ont été larguées à l'aube sur la ville. De nouvelles frappes ont touché les sièges régionaux des forces de sécurité, de la police, ainsi que l'université. Il y aurait 4 morts. Hier, on en a dénombré 18 après le bombardement du bâtiment de la région et d'un hôpital. Et plus au nord, près de la frontière avec la Biélorussie, les forces russes ont lancé un ultimatum au maire de la ville de Konotop, soit la ville se rend, soit l'armée de Moscou l'écrase. Et dans cette région aussi, la crainte d'une offensive se concrétise. D'importantes activités ont été repérées, des avions, des véhicules transportant des vivres et des munitions en provenance du Bélarus.
À l'autre bout du pays, au sud, la ville de Kherson est désormais aux mains des Russes. Écoutez, ce témoignage, c'est celui d'Hussein qui vit sur place avec sa femme et sa fille.
Je me suis réveillé parce qu'il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de gens qui criaient. Et puis j'ai entendu comme des grosses machines qui roulaient. Alors j'ai ouvert ma fenêtre et c'est là que j'ai vu des tanks et l'armée russe. C'était vraiment terrifiant. Les civils n'avaient pas le droit de sortir pendant qu'ils étaient en train de patrouiller. Beaucoup de personnes étaient dehors à ce moment-là. Et eux, ils tiraient des coups de feu en l'air pour effrayer les gens. Comme un signal d'avertissement. Rentrez chez vous ou on vous abat. Tout le monde courait pour rentrer chez eux. Il y avait un silence de mort dans la ville.
Le témoignage d'Hussein, donc, qui vit à Kherson, témoignage recueilli pour RTL par Sophie Hussein. Sophie Jousselin, dans cette partie sud de l'Ukraine, tous les regards se tournent désormais vers Mariupol.
Oui, Mariupol, une ville stratégique, port sur la mer d'Azov. Et si les Russes la conquièrent, ils établiront alors une continuité territoriale entre les territoires séparatistes du Donbass à l'est et donc la ville de Kherson, porte d'entrée sur la Crimée. Les Russes seraient maîtres de presque tout le sud de l'Ukraine.
Et puis, bien sûr, il y a Kiev. On parlait hier de ce convoi russe de 60 km qui s'approchait de la capitale. Il est désormais visiblement à l'arrêt. Écoutez ce que nous disait ce matin sur RTL l'amiral Hervé Bléjean. Il est directeur général de l'état-major de l'Union européenne.
Ils se sont rendus compte qu'un certain nombre d'unités légères ne suffisaient pas, notamment à emporter les métropoles, hein, puisque l'objectif principal reste la capitale et le gouvernement de M. Zelensky. Mmh. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de regrouper leurs forces, de regrouper l'approvisionnement logistique et en munitions avant de déclencher une attaque qui sera sans doute massive, brutale, et avec malheureusement sans doute beaucoup de civils parmi les victimes.
L'amiral Bléjean invité ce matin d'Alba Ventura sur RTL.
Et Sophie, Kiev attend désormais l'assaut.
Oui, exactement. Et avant de lancer cet assaut, il faut s'attendre à ce que l'armée russe bombarde de nouveau la ville, s'attaque aux infrastructures de communication, comme elle l'a fait hier sur la tour de la télévision. Elle pourrait couper l'électricité, l'eau, afin d'affaiblir la résistance des Ukrainiens, inciter les habitants qui restent à quitter la ville, afin d'éviter un bain de sang dans la population civile avant cet assaut qui sera extrêmement violent.
Merci à vous, Sophie Jousselin, pour toutes ces explications, comme un signe, un symbole de cette résistance ukrainienne. Le président Zelensky a posté ce matin un nouveau message vidéo. Il annonce 6000 morts côté russe.
6000 Russes sont morts, des militaires russes, en 6 jours seulement, sans compter les pertes de la nuit dernière. 6000. Et pourquoi? Pour faire tomber l'Ukraine? C'est impossible. Rien n'y fera. Ni les missiles, ni les bombes, ni les tanks. Nous sommes sur notre terre natale. Et si la guerre est contre nous, eux, ils auront contre eux un tribunal international.
Extrait de ce message, dernier message donc du président Zelensky. Emmanuel Macron lui prendra la parole ce soir, ce sera à 20h, allocution télévisée, William Galibert.
Oui, c'était une promesse, Emmanuel Macron l'avait dit jeudi dernier, juste après le début de l'offensive russe, il avait dit, souvenez-vous, je reviendrai vers vous. Bien, le moment est venu. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette allocution? Un point sur la situation des combats, oui, un point sur les sanctions européennes, sur la suite, sur les conséquences pour la France et les Français. Ce qu'on ne peut pas attendre de cette allocution, c'est une déclaration de candidature. Le temps presse, mais l'Élysée nous affirme que ce n'est pas le moment. Et vous pensez bien qu'on a posé deux fois la question. Les proches d'Emmanuel Macron disent qu'il y aurait un mélange des genres malvenu si le chef de l'État se servait de cet instant pour se lancer dans l'élection.
Il a jusqu'à vendredi 18h pour le faire. Merci à vous, William Galibert. Depuis une semaine, cette guerre occupe très largement les médias. Difficile de préserver les plus jeunes. Alors justement, faut-il ou non en parler aux enfants? Que leur dire? À Lyon, notre correspondante Peggy Lieudenau est allée à la rencontre de parents et d'enfants.
Pour les parents, difficile de savoir finalement ce qu'il faut faire. Tatiana a un fils de 7 ans et elle ne souhaite pas lui parler de cette guerre.
Je trouve qu'on ne leur a pas laissé le temps de grandir déjà comme il faut par rapport à la crise sanitaire ou à plein d'autres choses.
Avant la fin des vacances, Coralie a au contraire voulu parler de la situation à ses deux enfants, Zoé, 9 ans, et à son fils Milan, 6 ans.
J'avais pas trop envie que ça vienne en France, mais bon, je sais que c'est loin.
Est-ce qu'à l'école, vous en avez parlé?
Un petit peu, mais pas plus que ça. J'ai peur.
Pourquoi tu as peur?
Parce que j'ai peur qu'il y ait la guerre dans notre pays.
Face à cette peur, Coralie essaye de trouver les mots.
On essaie de les rassurer au mieux, effectivement, et d'expliquer avec des mots qui sont à leur portée, qu'ils puissent comprendre la situation, mais leur dire qu'on est là pour eux et pour apaiser leurs craintes au maximum.
Pour Hélène Romano, pédopsychiatre, il faut rassurer et rester positif.
Dire à nos enfants, on espère qu'il va y avoir la paix, tout est fait pour la paix, mais quoi qu'il arrive, il y aura toujours maman, papa, des gens autour de toi, tu ne seras jamais seul au monde. S'il y a une chose à dire à nos enfants, c'est ça.
Rassurer est effectivement essentiel, mais il ne faut surtout pas, selon elle, mentir aux enfants qui pourraient alors être déçus s'ils se rendaient compte du mensonge.
À Lyon, le reportage pour RTL de Peggy Lieudenau. J'ajoute qu'en ce premier jour de carême, le pape François invite les catholiques du monde entier à prier et à jeûner pour la paix en Ukraine.
Dans l'actualité également, Christiane Taubira qui jette l'éponge.
À 39 jours du premier tour de la présidentielle, l'ex-garde des Sceaux renonce à se présenter.
Malgré la très forte mobilisation avec ténacité et enthousiasme, et puis malgré les promesses de nombreux élus, il est évident que nous ne réussirons pas à réunir les 500 parrainages exigés pour concourir à l'élection présidentielle.
Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
On ne va pas se mentir, ce n'est pas vraiment une surprise, hein, cet abandon. On a tout de même envie de se dire tout ça pour ça.
Oui, Christiane Taubira, ça devait être l'espoir de l'Union de la Gauche. Quand elle s'est lancée, elle avait promis de ne pas être une candidature de plus, d'aider au rassemblement derrière elle. Sauf que voilà, force est de constater que ni Yannick Jadot, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Anne Hidalgo n'ont vraiment pris au sérieux sa candidature. Et puis en même temps, on peut les comprendre parce qu'à part sa large victoire à la primaire populaire, des déplacements sur le terrain peu médiatisés, cette campagne, elle n'a jamais vraiment démarrée. Dans un sondage ce matin encore, elle était testée à 2%, sans réel soutien politique de poids et surtout donc sans les 500 signatures, 181 au dernier pointage hier soir, ce qui rendait donc impossible une deuxième candidature à l'élection présidentielle.
Thomas Després du service politique de RTL.
Du football ce soir, deuxième demi-finale de la Coupe de France. Nantes affronte Monaco.
Le vainqueur sera face à Nice pour la finale. Nice qui a battu hier soir Versailles, petit poussé de cette compétition. évidemment. Et puis, si l'on en croit nos confrères du Parisien, le PSG, lui, tente le tout pour le tout pour retenir Kylian Mbappé. Le club aurait proposé un pont d'or au joueur pour qu'il prolonge son contrat. Et bonjour, Christian Olivier.
Bonjour.
Les sommes.
C'est plus un pont d'or, hein, c'est un viaduc d'or, si vous me permettez.
Justement, les sommes donnent le tournis.
Alors, je vous dois la vérité. Je suis nul en calcul. J'ai dû me résoudre à appeler un cabinet comptable. Et à la réponse reçue, j'ai traversé l'avenue Charles de Gaulle pour acheter des aspirines à la pharmacie d'en face avant de venir dans ce studio. En chiffres, 50 millions nets par an, plus 100 millions nets d'euros. Hein, de primes, de fidélité. C'est la coutume dans le football. Total, 200 millions nets à diviser par les 730 jours du contrat sur 2 ans, soit une rémunération de 273 960 euros et des poussières par jour.
Par jour ?
Oui. C'est le prix de l'excellence, ai-je entendu dans la rédaction. C'est le prix de l'indécence pour tout autre commentaire. Qu'en pensez-vous ? Je vous laisse juge. Conservons donc nos pieds de journalistes sur terre. Ces chiffres sont le fruit d'informations, vous l'avez dit, publiées par le très sérieux Parisien aujourd'hui en France. À l'heure qu'il est, aucun démenti du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, y en aura-t-il un jour ? Et quel que soit le résultat de la négociation, pour que le PSG conserve Mbappé et le décourager d'aller au Real Madrid. Alors, info ou intox, les Espagnols peuvent-ils s'aligner sur cette proposition ou peuvent-ils convaincre le Français d'un projet sportif hors norme et donc du ruissellement qui remplirait ensuite les poches du joueur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À part que le match retour de mercredi prochain, Real PSG, lui, vaudra déjà son pesant d'or.
Je pense qu'on va réagir à cette information. 273 000 euros par jour, c'est ce que retiendront, j'imagine, les auditeurs, au 32-10.
Et puis, il était la voix de JR, oui, dans Dallas.
Pas que la voix, d'ailleurs, parce que c'est un grand comédien.
Et je comprends très bien pourquoi ça s'est produit. Mais j'aime pas ça plus que n'importe quel autre mari. Il y a une seule façon de lui éviter la prison.
On a appris le décès de Dominique Paturel, acteur.
Bien sûr,
disiez,
c'était le dernier à avoir joué avec Jean Vilar.
Et il a doublé pas moins d'une centaine de personnages au cours de sa carrière. On a pu l'entendre, alors je vous cite comme ça, des séries qui parlent à tout le monde, Columbo, Agence Touriste, Desperate Housewives plus récemment. Il avait aussi doublé Sinatra. Dominique Paturel avait 90 ans.
Et il jouait régulièrement dans la série Au théâtre ce soir, qui était programmée jadis le vendredi sur la une de l'ORTF. Les deux sujets du jour dans quelques secondes. D'abord, c'est français, toujours en Ukraine. On sera en ligne avec Nicolas, qui a précipitamment quitté Kiev ce matin. À tout de suite.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
RTL Midi, édition spéciale. RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
À 5h, heure de Kiev, la cellule de crise m'a appelé et après avoir discuté avec eux, là on part rejoindre le convoi de l'ONU dans 3 quarts d'heure, il faut que je sois sur site, et on part en convoi pour la Moldavie. On savait que ça risquait de chauffer très très fort et on en a discuté. Apparemment, ils ont eu des infos de dernière minute et m'a dit je vous conseille vivement de quitter parce que je pense que ça va taper très très fort, mais on s'en doutait. Donc bon, on part.
C'était ce matin sur RTL. Nicolas, auditeur français qui vit à Kiev avec son épouse ukrainienne et leur fille de 8 ans, nous racontait pourquoi et comment il s'était finalement résolu à quitter l'Ukraine. 6 heures plus tard, on vous retrouve. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour tout le monde.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous avez pu rejoindre ce convoi de l'ONU. Où êtes-vous à l'heure où on se parle ?
Alors, on est à 6 kilomètres dans les bouchons de la frontière moldave. Donc là, on va prendre le mal en patience, mais on est un petit peu sorti d'affaire dans le sens où quand on arrive ici, on sent qu'on est en sécurité. On a passé de nombreux checkpoints militaires, je ne vais pas vous mentir, entre Kiev et ici, je pense une bonne trentaine. Donc ça fait plaisir d'arriver ici. On se sent un petit peu plus serein.
Qu'est-ce que vous avez vu sur cette route, ces checkpoints, quoi d'autre ?
Il y a des petits checkpoints. Alors, il y en a certains qui, j'ai été étonné, qui sont vraiment artisanaux, d'autres qui sont un peu mieux confectionnés avec des militaires et puis des civils armés qui contrôlent un petit peu, qui font la sécurité. On a croisé que 2 blindés ukrainiens qui remontaient en direction de Kiev. Sinon, on n'a pas vu de blindés. C'est que de l'arme légère et des petits checkpoints, quoi. Voilà.
Nicolas, on vous avait eu au téléphone ces derniers jours et vous aviez imaginé rester en Ukraine. Il y a du soulagement, on l'entend, mais il y a peut-être également de l'inquiétude parce que si vous partez avec votre épouse et votre fille, j'imagine la famille de votre femme reste en Ukraine ?
Oui, Pascal, tout à fait. Eux, ils sont du côté de Skadovska, en dessous de Kherson. Donc, eux, de toute façon, ils n'ont pas d'accès. Ils sont sous l'occupation russe, si je puis dire. Donc, eux, ils sont bloqués. Comme je vous avais dit, effectivement, on comptait rester. Et ce matin, la cellule de crise m'a appelé à 5h du matin. Et après avoir parlé une dizaine de minutes, d'ailleurs, je tiens à les remercier. Ils ont été très, très gentils, très professionnels. Et après avoir fait un petit débrief, effectivement, je pense qu'ils ont des infos auxquelles je n'ai pas accès. Et il m'a vivement conseillé. On pense que ça va bombarder et que ça va taper très, très fort entre cet après-midi et demain.
Vous avez, Nicolas, donc suivi ce convoi de l'ONU. Il y avait beaucoup d'autres Français ?
Alors, moi, quand je suis arrivé, comme il y avait des checkpoints partout à la sortie de Kiev, c'était compliqué. Donc, je les ai rejoints. J'ai pas eu le temps de voir qui, quoi. Je ne sais pas combien il y a de voitures sur la route. Il y a tellement de voitures qui roulent en direction de la Moldavie, toutes nationalités confondues. Je n'ai pas eu le temps de faire le point, je vous dirai des bêtises. Si on se rappelle dans la soirée, je vous en dirai plus.
Les routes que vous avez empruntées, est-ce qu'il y avait autour, est-ce que c'est un pays en guerre, au-delà de ces chars que vous avez vus ou...
Non, parce que je pars du bon côté, c'est-à-dire je pars à l'ouest. On sait de voies sûres, que par exemple sur Kherson, ma belle-maman hier m'a envoyé une vidéo en live. Il y avait plus de 200 ou 300 véhicules à la queue leu-leu, et tout à l'heure, elle a vu un nombre. Elle m'a dit, j'ai pas compté parce qu'il y avait beaucoup d'hélicoptères qui s'envolaient. Ils ont parlé avec des militaires, donc eux, ils partent sur Nikolaev, et une fois qu'ils ont pris Nikolaev, ils partent sur Odessa, et avec objectif de remonter l'hélico presto sur Kiev. Voilà ce que je sais à l'instant même.
Nicolas, vous vivez une expérience que les Français ont vécu en 40 et ce qu'on a appelé l'exode. L'objectif, c'est quoi? C'est de rejoindre la France?
Non, nous on va se positionner sur la Moldavie. Et
pourquoi la Moldavie?
Parce que la cellule de crise m'a dit que c'était un point d'accès plus facile à atteindre. Il y a peut-être moins d'engorgement.
Mais il n'est pas transitoire ce point d'accès? Vous n'avez pas envie d'aller jusqu'en France où vous avez peut-être plus de repères? Votre idée c'est quoi? C'est de revenir le plus rapidement possible en Ukraine?
Oui, ma vie est en Ukraine, Pascal. Hein. J'ai ma femme, ma fille, mon ensemble, j'ai mon appartement, j'ai toute ma vie là-bas, moi. Hein. En France, je n'ai plus rien, je n'ai plus de point d'attache à part de la famille, mais je n'ai pas d'appartement, de maison, je suis résident permanent à Kiev.
Nicolas, vous allez rester avec nous, si vous le voulez bien, encore quelques petites minutes. On est en direct avec Anne-Claire Legendre, porte-parole du Quai d'Orsay, ici en France. Bonjour. Et merci beaucoup d'être en direct avec
Bonjour.
Nous. Vous avez, j'imagine, entendu le témoignage de Nicolas, qu'on suit maintenant depuis plusieurs jours. Est-ce qu'on sait combien de Français sont encore en Ukraine? Combien, comme lui et sa famille, ont pu suivre ce convoi de l'ONU ce matin?
Alors, une partie des Français ont décidé de prendre la décision qu'a prise Nicolas et de suivre nos recommandations et donc d'emprunter cet axe qui nous semblait le plus sûr sur la base des informations dont nous disposions. Et aujourd'hui, nous avions estimé, avant cet appel, la communauté à 1000, 1000 en Ukraine. Cet appel ne se faisait que vis-à-vis de la communauté qui était à Kiev, puisque c'était sur cette route-là qu'il y avait une opportunité de sortir. Et nous estimons qu'une partie d'entre eux, mais c'est encore en évaluation, a fait ce choix. Comme vous le savez, comme Nicolas l'a d'ailleurs indiqué, notre cellule de crise, elle a appelé individuellement tous les Français qui pouvaient être concernés par cette opportunité. Et on continue à les suivre tout le long de la route. Certains nous appellent pour nous signaler leurs difficultés. On leur indique au fur et à mesure quels sont les points de passage frontaliers les plus sûrs. Et évidemment, il y a tout un dispositif qui est mis en place de l'autre côté de la frontière pour les guider, pour les accueillir, pour faire en sorte.
Comment ça va se passer à l'arrivée en Moldavie?
Alors,
dans le cas de la famille de Nicolas?
On a en fait un dispositif à la frontière, donc Nicolas pourra s'adresser à des agents consulaires français qui sont à la frontière et qui sont là précisément pour accueillir nos ressortissants dans les meilleures conditions après les épreuves qu'ils ont traversées, non seulement sur le plan consulaire, mais aussi en termes d'hébergement et de transport vers un aéroport pour rejoindre la France, si c'est le souhait qu'ils
font. Mais c'est pas le souhait de Nicolas, et effectivement, Nicolas a peut-être une question d'ailleurs directement à vous poser, Madame Legendre. Nicolas?
Alors, juste dans le cadre, comme moi qui suis français résident en Ukraine permanence, Alors, je vais le poser sur l'antenne, sinon je vais le poser en antenne. Comment ça se passe quand on va arriver? Parce que finalement, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps dans la précipitation de demander plus. Est-ce que on va pouvoir rester quelques jours sur site ou est-ce qu'on est juste accueilli une journée pour pouvoir trouver un point de repli?
Madame Legendre, porte-parole
du Quai d'Arsène. Tout dépend de ce que vous souhaitez, donc...
Bah, j'imagine que Nicolas a envie de rester plusieurs jours à l'hôtel, sans doute, d'être hébergé avec sa famille et que les repas soient pris en charge, en tout cas sa sécurité soit prise en charge et également son intendance soit pris en charge. Je me mets à sa place. Est-ce que ça se sera pris en charge, Madame Legendre?
Donc bonjour Nicolas et je suis contente de voir que vous êtes presque arrivé près de la frontière dans de bonnes conditions et que vous allez pouvoir être soulagé de traverser la frontière. Donc vous allez voir au poste frontière, vous allez voir des équipes françaises identifiées avec notre drapeau qui sont là vraiment pour prendre soin de vous, vous accueillir dans les meilleures conditions. Et donc comme je le disais, vous allez pouvoir discuter avec eux d'hébergement et de transport pour voir dans quelles conditions vous allez pouvoir rester en Moldavie si c'est votre choix.
D'accord.
Et est-ce qu'on peut imaginer, Madame Legendre, pour ceux qui voudraient revenir en France, l'accompagnement via les autorités françaises, par exemple donc de Moldavie jusqu'en France?
Alors après, on rentre dans une logique de vol ouvert, hein. Donc l'espace aérien, il est ouvert de l'autre côté de la frontière, et donc nos ressortissants vont pouvoir rejoindre le bon port s'ils font cette décision.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Anne-Claire Legendre, donc porte-parole du Quai d'Orsay. Un grand, grand merci à vous, Nicolas. On pense bien à vous, à votre épouse, votre fille. Et on continuera, j'espère, à prendre de vos nouvelles hein, sur l'antenne d'RTL.
Et pourquoi pas même dès tout à l'heure, entre 13h et 14h30. Autre sujet, dans un instant, 14 légionnaires français d'origine ukrainienne ont été arrêtés cette nuit à Paris alors qu'ils s'apprêtaient visiblement à aller combattre en Ukraine. A tout de suite.
RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud.
Pascal.com. RTL Midi, édition spéciale.
Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Le légionnaire est un soldat français qui est au service de la France. Il ne peut pas avoir plusieurs fidélités, il le sait très bien, il suit un code d'honneur du légionnaire, il doit absolument être fidèle à ce code d'honneur. C'est l'essence même de la Légion depuis près de 200 ans.
C'est une info qu'RTL vous révèle ce midi. 14 légionnaires français d'origine ukrainienne interpellés à Paris cette nuit alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un bus direction la Pologne pour très vraisemblablement rejoindre l'Ukraine. Bonjour Guillaume Chiez.
Bonjour.
C'est vous qui nous révélez cette information. Avant tout, on va rappeler ce qu'est un légionnaire.
Alors un légionnaire, c'est un soldat d'origine étrangère engagé dans l'armée française, dans cette troupe d'élite de l'armée de terre. Aujourd'hui, on compte 9000 légionnaires en France, des légionnaires de 140 nationalités différentes et qui s'engagent sous le drapeau tricolore pour effectuer des missions au sein de l'armée.
Revenons à ces interpellations cette nuit. Que s'est-il passé?
Donc, les policiers ont interpellé un groupe d'individus qui s'apprêtaient à monter dans un bus direction la Pologne. Des hommes, pour certains, en tenue militaire, avec des gilets pare-balles, mais aucune arme. Les 29 personnes présentes sur place ont été conduites au département de contrôle des flux migratoires. Parmi eux, les deux chauffeurs du car ont été relâchés. Il y avait également 13 civils, dont les intentions sont toujours en cours de vérification. Et donc, 14 légionnaires, tous d'origine ukrainienne.
Mais ces légionnaires, pardon, ils n'avaient pas le droit de quitter la France?
Et donc c'est le problème en fait, et des enquêtes sont en cours au niveau du commandement de la Légion étrangère. Ce qui est sûr, c'est que 5 d'entre eux n'avaient aucune permission et selon leur commandement sont en totale déviance avec le code des légionnaires. Ils encourent une sanction militaire lourde et peut-être même être expulsés de la Légion à terme. Pour les 9 autres, la situation est plus complexe. Ils ont obtenu une permission exceptionnelle, comme l'explique le général Alain Lardet, commandant de la Légion étrangère.
Je les ai autorisés en urgence à avoir 15 jours de permission pour se rendre dans un pays limitrophe, hors Biélorussie, hors zone de conflit, évidemment Ukraine, c'est interdit, mais Pologne, etc., c'est essentiellement Pologne d'ailleurs, pour accueillir leur famille. En tout cas, ils étaient en permission, donc ils étaient à la limite légitime pour essayer de rejoindre la Pologne. On va le vérifier avec eux.
Le problème, c'est qu'il faut désormais déterminer leurs intentions. Voulaient-ils simplement accueillir leur famille ou combattre en Ukraine? Selon une note de police que j'ai pu consulter, un des occupants du bus n'a pas caché aux policiers sa volonté de rejoindre l'armée ukrainienne.
Et Guillaume, on sait combien il y a d'Ukrainiens dans la Légion étrangère?
Alors, ils sont 700 et parmi eux, 25 sont aujourd'hui en absence illégale. C'est-à-dire que la Légion ne sait pas où ils sont, très probablement déjà engagés sur des combats en Ukraine. Et à terme, ces 25 pourraient être considérés comme déserteurs. Et puis, Il y a des Ukrainiens, mais il y a aussi des Russes dans la Légion. Et le général avec qui je me suis entretenu m'a confié qu'il n'y avait, conformément au code d'honneur de la Légion, aucun problème entre ces deux nationalités. C'est vraiment le concept de frère d'armes qui prime au sein de la Légion.
Merci Guillaume.
Histoire tout à fait singulière. Merci, il est 12h58. Nicolas Dupont-Aignan sera avec nous. Il est candidat, vous le savez, à l'élection présidentielle. Il a ses 500 parrainages et il sera avec nous à partir de 13h30. Et à partir de 13h, évidemment, on va pouvoir dialoguer avec les auditeurs et évoquer notamment le drame ukrainien. À tout de suite.
Amandine Bégaud, Pascal Praud.
RTL Midi, édition spéciale.